France Inter, le 6-9 du week-end.
Je vois la main verte d'Alain Baraton. Elle est là. Elle est toujours là, la Baraton.
Oui.
Alain, ce matin, deuxième volet de votre série sur les arbres admirables du parc de Versailles.
Et oui, comme je l'ai dit hier, ils sont entre 30 et après avoir parlé du vieux chêne, du séquoia géant et du platane à pied d'éléphant, j'ai envie ce matin de mettre en lumière l'arbre qui est à mes yeux l'un des plus beaux du domaine, le sophora du Petit Trianon. Il a été rapporté d'Angleterre en 1764 par Antoine Richard, le fils du jardinier de Louis XV et lui-même futur jardinier de Marie-Antoinette. Un jour, il faudra que je vous parle plus longuement d'Antoine Richard. C'est à lui que l'on doit la sauvegarde de Versailles à la Révolution. Cet homme est un génie. Alors, lorsque Marie-Antoinette demande la création d'un jardin champêtre 10 ans plus tard, donc Louis XV est mort en 1774, vers 1784, eh bien le sophora qui vivait alors en pépinière est installé de manière à ce qu'il soit visible depuis la chambre de la souveraine. Il a depuis résisté aux guerres et révolutions, au froid et au vent. Il a même résisté à la bêtise des hommes. Ce sophora est un miraculé.
Alors parmi les autres arbres admirables du parc de Versailles, il y a aussi ce cèdre dit du Jussieu.
Eh oui, il se dit en effet que c'est le célèbre botaniste Bernard de Jussieu qui aurait lui-même planté le cèdre en 1772. Mais il y a un mais, et il est de taille. Des examens approfondis attestent que l'arbre serait né en 1840. Alors toujours est-il que ce cèdre est l'un des plus beaux arbres du domaine. À voir aussi le vieil if planté lors de la construction de la grotte de Marie-Antoinette, cet arbre qui a été le témoin des joies et des pleurs de la reine quand elle venait se réfugier à Trianon. C'est dans cette grotte qu'un page lui prit de rejoindre sans attendre le roi au château. C'était hier, le 5 octobre 1789.
Mais c'est pourtant très très délicat un if, non ?
Oui, mais il était planté en même temps que la grotte a été construite et on voit aujourd'hui cet ensemble de pierres et de racines. L'effet est saisissant, cet if est beau et j'espère qu'il va encore vivre très longtemps.
Dans le parc de Versailles, il y a aussi, dans le jardin de la Reine, un majestueux pin de Corse.
Eh oui, un arbre planté dans le jardin sur demande de l'empereur Napoléon Ier quand il offre le domaine à son épouse Marie-Louise. Il y a un autre conifère qui a aussi très certainement été planté lors de la restauration ordonnée par l'empereur. C'est un genévrier de Virginie et comme son nom l'indique, il est originaire du continent américain. Il était déjà surnommé en 1900 le vieil arbre et il est magnifique. Il a lui aussi, et comme tant d'autres, souffert de la tempête de 1999. Il est maintenant étayé car presque arraché du sol. Je suis persuadé qu'il peut vivre longtemps ainsi, peut-être même, soyons utopistes, 1000 ans voire plus. À voir aussi, Patricia, si vous m'accompagnez dans les jardins, et c'est une invitation, les cyprès chauves, le tout petit faux de Verzy, les sophoras pleureurs, les gingko biloba, le chêne fastigier et bien d'autres encore. Bien entendu, Eric, vous êtes invité à nous accompagner.
Oui, je préfère qu'ils viennent avec nous.
Oui, je comprends.
J'arrive.
Voilà, ce sont les arbres de Versailles qui enfin sont reconnus en tant qu'admirables et c'est mérité, c'est juste. Ils ont enfin une identité et j'en suis très heureux.
Nous en sommes heureux pour vous aussi, Alain Baraton. Toujours à propos du jardin de Versailles, dont vous avez la charge en partie, Alain Baraton. Vous avez peut-être lu hier cette pleine page dans le Figaro qui dénonçait, je cite, la lente agonie du potager du roi. Pour quelle raison cette dégradation ?
Je suis souvent très sollicité à ce sujet. Il est déjà bon de rappeler que le potager du roi est une entité indépendante de l'établissement public de Versailles et qu'il relève directement de l'autorité du ministère de l'Agriculture. Le potager du roi est un lieu merveilleux créé par Jean-Baptiste de la Quintigny et je crois déjà que l'idéal serait qu'un jour, je peux rêver, il revienne dans le giron du domaine et qu'il soit partie intégrante, comme il l'est autrefois, de Versailles.
Jean-Baptiste de la Quintigny, 17e siècle, agronome,
oui,
c'est lui qui a
créateur.
Dessiné, enfin pas dessiné, mais...
Si, c'est lui qui a aménagé, qui a eu l'idée de créer des murs qui sont à l'origine de microclimats. Jean-Baptiste de la Quintigny, l'inventeur de la taille fruitière telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, l'inventeur des primeurs, génie absolument. Et ce potager du roi...
Pourquoi il se dégrade ?
Peut-être qu'il y a des problèmes d'effectifs, peut-être aussi que, sans vouloir critiquer mes collègues, bien évidemment, mon propos n'est pas là, il y a eu un tournant à prendre dans le zéro phyto, c'est qu'on est passé du traitement au zéro phyto, il faut une période d'adaptation. Versailles a la chance d'avoir des équipes importantes, dynamiques et surtout qui disposent de moyens suffisants. peut-être que le potager du roi, peut-être que les équipes n'ont pas été capables en temps et en heure de prendre le tournant zéro phyto, peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment épaulés. Et puis, soyons honnêtes, il est bien difficile de faire vivre le potager du roi quand on vit à côté d'un château qui, juste à côté, attire plusieurs millions de visiteurs par an. On ne brille que difficilement près du soleil.
Merci de ces précisions. Il n'était pas facile pour vous de prendre la parole, parce que vous êtes un peu à la fois jugé parti
en tant que jardinier
du château de Versailles.
Voilà. Il y a un dicton qui dit « On ne jette des pierres que sur un arbre qui porte des fruits ». Il est vrai que ce qu'il faut maintenant, c'est que le potager du roi attire les mécènes, attire les décideurs, et qu'enfin il renaisse véritablement. Le potager du roi n'est pas mort, mais par contre il faut maintenant vraiment le soutenir pour qu'il redémarre.
Allez, nous avons peu de temps maintenant pour répondre aux questions des auditrices et des auditeurs de France Inter. Pascal vous demande, Alain Baraton, pourquoi les boutons de mes artichauts ont-ils séché?
Il y a deux raisons possibles. La première, les boutons des artichauts détestent l'eau. Quand il pleut, qu'il y a un orage, qu'on les arrose trop copieusement, ils peuvent se dessécher et donc en quelque sorte disparaître. Si c'était l'ensemble du végétal, ce serait le mildiou. Là, c'est pas le mildiou, donc c'est certainement dû à des arrosages trop fréquents sur le bouton. Peut-être aussi qu'il y a une petite attaque de pucerons noirs. On les voit pas, ils sont là discrets, ils sucent la sève de la plante et le bourgeon en pâtit. Comment faire pour éviter le puceron noir? Planter à côté des artichauts tout simplement des bons vieux pieds de fèves. Le puceron noir, il est en l'air, il arrive, oh, il voit la fève, il la préfère, et il va coloniser cette plante plutôt que l'artichaut.
Alain Baraton dans le rôle du puceron.
Je préfère la fève.
Oui, oui, admirablement. Oui, je suis un imitateur animaliste hors du commun.
Gilles vous demande, quelle est la terre idéale pour un palmier?
Oh, les terres riches, légères, qui ne retiennent pas l'eau. Je vous rappelle qu'il y a quand même une très grande diversité de palmiers. Les Washingtoniens, les Phoenix, les Camerops, donc chaque palmier a sa terre qui lui est propre, mais jamais, jamais, jamais de terre qui ne retienne l'eau, c'est très simple.
Bérangère, je ne comprends pas, dit Bérangère, je viens de semer de la mâche, or je ne vois rien venir, comme Anne.
Allez, réponse courte, quand on sème de la mâche en octobre, la récolte se fait entre 3 et 5 mois plus tard. Un peu de patience.
Il faut attendre. Georges, quand et comment bien tailler un cognassier?
Uniquement lorsqu'on le plante. Lorsqu'on plante un cognassier pour récolter des coins par la suite et faire cette délicieuse gelée de coins, eh bien, on va d'abord faire une taille de formation. Et après, pas la peine de tailler. On regarde la plante, on l'arrose si elle en a besoin. On n'y touche pas. On se rappelle que le coin est un fruit qui se mange cuit. Vous avez déjà planté vos dents dans un coin quand il est sur l'arbre?
C'est imbouffable. Déjà, oui, pardon, c'est immangeable.
Déjà pour l'éplucher, enfin. On l'épluche pas avec les dents à la Baraton. On prend un couteau.
Un dernier conseil pour le week-end à la Baraton.
Une promenade, elle est de taille. Faites art et plante au château Colbert. C'est à Molévrier, c'est au Maine-et-Loire. Manifestation avec 25 exposants qui s'installent dans le parc et les pépiniéristes. S'il pleut à l'intérieur, il y a même des artisans d'art qui viennent, et j'y serai, je suis parrain de cette manifestation, je prends la route tout de suite là à 8h30 et je serai cet après-midi dans les jardins du château Colbert, l'occasion de dire comment est vraiment Patricia Martin en réalité et de parler également de vous, mon cher.
J'adorerais parler de vous-même, Alain Baraton. Est-ce qu'on épluche un coin ou est-ce qu'on le pèle? Je suis en train de me poser la question.
Oui.
Je me pose la question.
Épluché ou pelé? Merci à Alain Baraton et à samedi prochain.
À samedi.
Il est 7h51.